Chapitre 29. Sous les yeux du bourreau.
Les nappes blanches de Jar portent mon corps vers un lieu que j'ignore. Je ne suis pas maîtresse de mon voyage. Je pourrais arrêter le courant, me retenir, ou même sortir de Jar. Mais je veux voir qui essaie ainsi de m'attirer. C'est peut-être Malouf, Imala, si loin maintenant. Ou bien Kiaran, qui n'a sans doute pas pu me dire tout à l'heure tout ce qu'il aurait voulu. Je glisse. Je me laisse guider. Pas de jour, pas de nuit. Je suis dans l'éternité de Jar. Un instant, ou bien toujours, je ne sais combien de temps dure ce voyage. Mon frère, Tagor, comment vivais-tu cela quand tu étais dans le Cid? Et comment le vis-tu aujourd'hui? Les Tuatan ont appris à vivre dans un monde nouveau. Et nous, serons-nous capables d'apprendre à vivre ensemble dans un monde pourtant ancien? Je ralentis. À présent, je crois reconnaître cet endroit. Bien sûr, la porte des mondes. C'est ici que... Je ne peux y croire. C'est lui qui m'a attiré ici. Lui. Félim. Il est là, devant moi. Le druide. Caron Casfad. Celui qui me donna naissance. Et qui est mort deux fois.
Bonjour, Aléa.
Je sais combien ça lui coûte de venir ici, de franchir la porte. Parlez, vite. Bonjour, Caron. Je lui donne son ancien nom, le nom qu'il portait quand il a rencontré ma mère.
J'ai peu de temps, Aléa, mais ce que je suis venue te dire est très important, malheureusement.
Je vous écoute, druide.
Tu peux tutoyer ton père, Aléa.
Mon père. Je dois retenir mes larmes. Il ne doit pas me voir pleurer. Je t'écoute.
Mahol Morda. Tu dois aller chercher Mahol Morda.
Je ne l'ai pas oublié, Caron. Comment pourrais-je l'oublier?
Écoute, Aléa. Tu dois le trouver vite.
Pourquoi vite? Il hésite. Il ne sait pas s'il doit me répondre. Tu n'as pas le temps d'hésiter, Caron. Réponds-moi. Pourquoi vite?
Parce qu'il doit être tué avant que le Saïman ne disparaisse.
Le Saïman va donc bien disparaître?
Tu es le dernier Samil Danak, Aléa. En doutes-tu encore?
Non. Je suis bien le Samil Danak, je le sais. Ou en tout cas, je suis ce que les druides appellent ainsi. Où trouverai-je Mahol Morda?
Il est au palais de Shanka, Aléa.
Où est-ce?
Au-delà des mers, sur une petite île à l'est de Calaban.
Son image devient floue. Il est en train de retourner dans le monde des morts. Il n'a plus l'énergie suffisante pour rester. Je dois me dépêcher. Est-on obligé de le tuer?
Mahol Morda possède l'Ahriman. L'Ahriman doit être supprimé avant que le Saïman ne disparaisse, Aléa. Car si l'Ahriman subsiste, s'il subsiste, Aléa, je n'ai pas le temps. Pour éliminer l'Ahriman, tu dois tuer Mahol Morda. Toi seul en es capable.
Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'est plus là, déjà. Il est retourné dans le monde des morts. Tu es Mahol Morda. Tu es l'Ahriman. Et pourtant, Fingin n'avait-il pas raison? Ne dois-je pas pour lui aussi trouver un autre moyen? Félim, mon père, pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Il est parti. Adieu, Félim. Maintenant, je peux pleurer. Ici.
Feren Alroeg, comte d'Harcourt, était installé dans le grand salon de l'aile nord du palais de Rhia, où comme chaque matin il lisait l'un des nombreux livres que lui avait offert l'évêque à Aeditus. Il avait encore tant de choses à découvrir dans ces merveilleux volumes.
Tout ce savoir qui échappait aux druides, qui échappait aux gaéliens, caché dans ses pages, à portée de main. C'était sa force à lui. Il avait su s'ouvrir au christianisme et au savoir avant ses ennemis. Et demain, il les écraserait tous. Parce qu'il avait accepté de changer, tout simplement. En tout cas, il l'espérait. Et pour le moment, il attendait des nouvelles du général d'Ancret. Il ne doutait pas que le stratège était parvenu à prendre Tarnéa, et que son grand plan pour s'emparer de l'île tout entière allait pouvoir se mettre en place. Le comte referma le livre devant lui. On frappait à la porte du grand salon. Il leva les yeux. La salle était vide, comme chaque matin. Nul n'avait le droit de venir le déranger ici. Car c'était pendant ces heures de solitude que Feren Alroeg pouvait réfléchir. C'était ici, entre les pages de ses livres, qu'il envisageait l'avenir, qu'il estimait le présent.
« Entrez !»
s'exclama-t-il en se demandant qui osait venir l'importuner. La grande porte en bois s'ouvrit lentement et son grincement résonna au cœur de la haute pièce. Le prévôt Alembert apparut derrière, la mine grave. Il traversa la grande pièce richement décorée sous le regard irrité du comte.
« Monsieur le comte ? »
murmura-t-il en s'approchant du large fauteuil. Alroeg posa son livre sur ses genoux en soupirant.
« Alembert, vous savez que je n'aime pas qu'on me dérange quand je lis. »
« Malheureusement, monsieur le comte, je crois que les trois nouvelles que je vous apporte ne peuvent pas attendre. »
Alroeg fronça les sourcils.
« Je vous écoute. »
Le prévôt avala sa salive.
L'armée du Samildanak a repris Tarnéa au général d'Ancret.
Le comte laissa tomber son livre par terre.
Impossible, souffla-t-il.
Les druides de Saïmina étaient avec eux, ils ont repris la ville et y siègent à présent. Le peuple de Sar semble les soutenir.
Comment d'Ancret a-t-il pu échouer si lamentablement? Le général d'Ancret? C'est une catastrophe, prévôt, une catastrophe!
Le comte se leva en secouant la tête. D'Ancret était son meilleur stratège. Jamais il n'aurait pensé qu'il pouvait échouer à Tarnéa. Et il allait avoir du mal à se passer de ses précieux conseils à présent. Quant à la perte de la Sarre, voilà qui risquait de compromettre ses projets. Quel imbécile il avait fait de n'avoir point envisagé cet échec. 3 000 hommes, il aurait dû en envoyer le double.
« Et les deux autres nouvelles ? »
reprit-il d'un ton brutal.
« Vous disiez que vous en aviez 3 !»
Alembert acquiesça.
« La reine Amine de Galassie a été assassinée. »«
Quoi ? Mais par qui ?»«
Un fou. Un homme de rien que personne ne connaît. »«
Par le Christ, est-ce possible ?»«
Et ce n'est pas tout, »
enchaîna le prévôt qui voulait se débarrasser au plus vite de sa tâche.
« Le baron de Bizagne a lui aussi été égorgé. »
Le comte se laissa retomber sur son fauteuil. Il ne parvenait pas à y croire. Il dévisageait le prévôt, se demandant si celui-ci pouvait mentir ou se tromper. Mais c'était évidemment impossible. Alembert disait vrai, et c'était pour lui une terrible catastrophe.
« La reine, le baron, voilà qui change tout. Prévôt, réunissez dans l'heure mes généraux et conseillers. Nous devons réagir au plus vite. »
Aléa avait demandé qu'on la laisse seule. Quelques heures au moins. La nouvelle de la mort d'Amine lui avait brisé le cœur. Et elle avait fait un effort considérable pour ne pas pleurer devant ses compagnons. Mais à présent qu'elle était seule dans sa chambre, en haut du château de Tarnéa, comme l'enfant qu'elle était encore, elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle n'avait pas envie de penser, pas envie de comprendre, mais simplement d'évacuer sa peine. Le destin en demandait trop à une fille de son âge. Le destin. La Moïra. Ah ! Si la Moïra existait, comment pouvait-elle être si cruelle ? Comment pouvait-elle s'acharner ainsi sur une fille si jeune, et depuis si longtemps ? Elle était allongée depuis au moins 1 heure, la tête enfouie sous le traversin, quand on frappa à sa porte.
Aléa, c'est moi, Caitlin. Laisse-moi entrer.
La jeune fille ne bougea pas. Elle aurait voulu rester seule. Elle avait bien dit qu'elle ne voulait pas qu'on la dérange. Elle ne voulait pas qu'on la console.
Ouvre-moi, bon sang!
Aléa le savait. Caitlin n'abandonnerait jamais. C'était une cheminante. Quand elle avait une idée en tête, on ne l'en détournait pas. Tant qu'on ne lui ouvrirait pas la porte, elle continuerait d'appeler, jusqu'à rendre Aléa folle. La jeune fille poussa un long soupir, roula sur le dos, essuya les larmes sur ses joues, se leva et partit ouvrir la porte. L'actrice lui fit un sourire et s'introduisit dans la chambre sur la pointe des pieds. Aléa referma la porte, fit demi-tour et retourna s'allonger sur le lit, dos à Caitlin.
« Aléa, » commença la cheminante. « Kiaran fait partie des druides qui nous ont rejoints, tu sais. Mais savais-tu qu'il était mon oncle ?»
La jeune fille ne répondit pas.
« J'ai retrouvé mon oncle !»
s'exclama Caitlin d'une voix joyeuse.
« Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. »
« Bon, d'accord, cela ne t'intéresse pas vraiment.
Mais j'ai une autre bonne nouvelle à t'annoncer. »
Aléa haussa les épaules. La cheminante lui parlait comme à un enfant. Pourtant, ce n'était pas vraiment une peine enfantine qui l'avait envahie, mais bien une peine profonde que ce genre de paroles légères ne pourrait effacer.
« Hernan, l'archidruide, a décidé d'initier Mjoln au titre de barde. »
Aléa ne répondit pas. Elle aurait voulu apprendre la nouvelle dans d'autres circonstances. Oui, elle aurait voulu s'en réjouir. Son plus vieil ami allait réaliser son rêve, devenir barde. Mais la boule coincée au fond de sa gorge l'empêchait même de parler. Elle avait mal, si mal.
« Aléa, tu n'es pas juste. »
Caitlin se leva et vint s'asseoir sur le lit à côté de son amie. Délicatement, elle passa la main dans ses cheveux bruns.
« Tu refuses que l'on vienne te parler, et pourtant toi, quand j'ai perdu mon frère, l'être qui comptait le plus pour moi, tu es venu me voir et justement, tu m'as parlé. »
Aléa se souvenait, mais loin de la consoler, ce souvenir la rendait encore plus triste.
« Et tu te rappelles ce que tu m'as dit ?»
Retenant les sanglots qui montaient dans sa gorge, Aléa hocha la tête sous le traversin.
« Tu m'as dit des mots que je n'oublierai jamais. Tu m'as dit « Je sais que cela ne te rendra pas ton frère, mais même si je ne l'ai vu que très brièvement, son visage restera à jamais dans ma mémoire. Et toi, tu resteras mon ami pour toujours. » Quelque chose comme ça. »
Aléa, qui avait les mains coincées sous la poitrine, extirpa son bras droit et le tendit vers l'actrice pour lui donner la main.
Et après, tu m'as dit « Merci, grande sœur. Tu sais pourquoi tu m'as dit ça ? Tu m'as dit ça pour me faire comprendre que si j'avais perdu un grand frère, j'avais aussi trouvé une petite sœur. Tu me proposais d'être ma petite sœur. Et cela m'a fait un bien fou, Aléa. Je n'ai pas pu te le dire ce jour-là, mais ça m'a fait un bien fou. Et pour toi, aujourd'hui, c'est la même chose. » Tu as perdu une amie, celle qui était jadis ta meilleure amie. Mais tu as aussi gagné l'amitié de tous ceux qui t'entourent. Fingin, Mjoln, moi. Tu as trouvé un frère, Tagor, et un amant, Erwan. Ce que tu partageais avec Amin, c'était des souvenirs. Tes plus beaux souvenirs d'enfance. Et les souvenirs, Aléa, sont immortels. Personne ne peut te les voler. La mort ne peut rien enlever. Ils t'appartiennent pour toujours. D'ailleurs, ne m'en veux pas, mais quelque chose me dit que si tu avais revu Amine aujourd'hui, ce qu'elle était devenue aurait abîmé tes souvenirs. C'est peut-être mieux ainsi. Garde tes plus beaux souvenirs, petite sœur.
Puis Caitlin se leva. Elle se pencha au-dessus d'Aléa, déposa un baiser sur le haut de sa tête et partit, sans ajouter un seul mot.
« Nous devons attaquer Providence avant que les Galaciens n'aient le temps de se réorganiser, »
affirma Feren Alroeg d'un air grave.
« Le roi et la reine sont morts sans laisser d'enfants. La Galaxie n'a aucun héritier à mettre sur le trône. Nous ne pouvons rêver de meilleure occasion. »
Le comte siégeait en bout de table.
Il avait revêtu ses habits militaires comme pour signifier qu'on était résolument en temps de guerre.
« Mais il y a cet aléa Casfad !»
objecta le général Rutter d'un air inquiet.
« Nous ne pouvons plus sous-estimer son rôle. Regardez ce qui s'est passé à Tarnéa !»«
N'exagérons rien, » répliqua le général Astley. « Je sais que cette gamine est surprenante, mais elle n'aura tout de même pas le temps de remonter une armée suffisante pour nous inquiéter si nous agissons vite. »« Non, » reprit le comte. « Rutter a raison. Nous devons faire très attention. » Dancré et moi avons fait l'erreur de la sous-estimer, et nous avons en effet vu le résultat. Je vais envoyer dès aujourd'hui des espions à Tarnéa. Toutefois, notre armée et celle de Terre Brune réunies ne suffiront-elles pas, même si Aléa s'allie à la galaxie?
Combien d'hommes pouvons-nous envoyer sur le front?
Demanda le prévôt à Lambert, à qui le comte avait demandé de prendre en note tout ce qui était dit lors de cette réunion.
À mon avis, répondit le général Rutter. « Si nous voulons garder ici suffisamment d'hommes pour nous défendre, au cas où l'armée du Samiltanak nous attaquerait par le nord, je ne pense pas que nous puissions envoyer plus de 12 000 hommes. La Terre Brune doit pouvoir en envoyer 7 000. Bref, nous devrions être un peu moins de 20 000. »
« Je dirais un peu plus, » intervint Astley en levant les mains. « Mais disons 20 000, pour être sûr. »
« De combien d'hommes dispose l'armée de Galassie aujourd'hui ?»
enchaîna le prévôt.
« À l'époque des Hogan, » répondit Astley, « la rumeur voulait qu'il disposât de 25 000 hommes. »
« Si Aléa participe au combat, » reprit Rutter, « cela risque en effet d'être très dur, sans compter que les druides sont avec eux et que la Bisagne pourrait très bien intervenir. En somme, nous retombons dans l'ancien rapport de force, en notre défaveur. »
« Sauf que la galaxie est en pleine crise, » fit remarquer le comte. « 100 personnes pour la diriger. »
« Oui, » concéda Rutter. « Mais d'un autre côté, jamais l'intervention de la Bisagne n'a été si probable. Maintenant que Carla Bisagni s'est débarrassée de son père, la baronnie risque de faillir à sa neutralité. Monsieur le comte, cette bataille n'est pas gagnée. »
« Aucune ne l'est jamais, général. » Mais si on ne réagit pas tout de suite, après ce sera encore pire. Les autres fiefs, s'ils s'unissent, nous écraseront. Nous ne devons pas laisser à la galaxie le temps de se reconstruire. Avec un peu de chance, la mort de la reine va entraîner une crise politique qui devrait paralyser en partie l'armée du royaume.
Avec un peu de chance, répéta Rutter, fort sceptique.
Ou à la grâce de Dieu, ajouta Astley.
« Dieu n'a pas beaucoup aidé d'ancré à Tarnéa, »
fit remarquer le premier général. Le comte lui adressa un regard furieux.
« Dieu était avec nous à la bataille de Sablon, et il sera à nos côtés si nous attaquons la galaxie. Je veux croire, moi, à cette victoire. Nous la méritons, et elle serait l'intérêt de la Gaëlia tout entière qui serait enfin débarrassée de l'obscurantisme des druides et de l'incompétence des dirigeants galaciens. »
Les généraux restèrent silencieux. Nul ne doutait que l'affrontement avec la galaxie était devenu inévitable.
Qu'on envoie des messagers en Terre Brune pour que Mériande et Aeditus nous rejoignent,
ordonna le comte en se levant.
Je veux que nous les retrouvions sur le chemin de Providence.
Afin de laisser aux Brunois le temps de nous rejoindre, mieux vaudra alors passer au sud de la chaîne de Gordraka, suggéra Astley.
« Cela couvrira en outre notre flanc nord d'une attaque éventuelle. »«
Entendu, » acquiesça Alroeg. « Qu'il en soit ainsi. Les armées se retrouveront à Atarmadja. Nous ne pouvons plus reculer. La guerre doit avoir lieu. Et il n'y aura pas de moment plus favorable. Généraux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. »
Belli avait été obligé de demander que l'exécution d'Almar Cain ait lieu en public. La place centrale de Providence était noire de monde. La foule était venue plus nombreuse même que pour les noces du roi. La ville était encore sous le choc. Les Galassiens ne s'étaient certes pas vraiment attachés à cette reine étrange et caractérielle, mais ils étaient surtout inquiets de ne lui connaître aucun successeur. Pour la première fois depuis longtemps, la galaxie se retrouvait sans souverain, orpheline, et la panique se répandait déjà à travers tout le royaume. Les Galaciens avaient vécu trop de bouleversements en trop peu de temps. Le mariage du roi, puis sa mort, le règne d'Amine, l'arrivée des druides au palais, l'initiation de la reine et maintenant son assassinat. Au milieu de ces événements aussi complexes que tragiques, les Galaciens avaient perdu leur repère. Pour l'heure, Belli et les druides parvenaient à maintenir un semblant de pouvoir. Mais demain, assister tous ensemble à l'exécution de celui qui les avait plongés encore un peu plus loin dans le cauchemar était sans doute un moyen de se sentir unis, de retrouver des marques, partager l'histoire, se rallier dans la douleur et la révolte. Mais pas encore dans l'espoir. Ils étaient bien plus nombreux que ne l'avaient estimé les proches du conseiller Belli, et l'on pouvait sentir dans la foule une tension grandissante. Le conseiller de la reine était assis avec les druides et les militaires dans les tribunes royales, juste au-dessus du poteau où allaient avoir lieu les écartèlements. Le convoi n'allait sans doute pas tarder à arriver.
« Allez-vous nommer un nouvel archidruide ?»
demanda Belli à Aenon en se penchant vers lui. Le druide hocha la tête.
« Oui, si nous voulons que le conseil persiste, nous sommes obligés de nommer un archidruide. »
« Accepterez-vous ce rôle en personne ?»
Dans ces circonstances, il doit sans doute en être ainsi.
Aenon a obtenu sa revanche. Il voulait être archidruide, et la reine l'en a empêché en usurpant sa place. Au fond, la mort d'Amine doit l'arranger, comme elle arrange sûrement beaucoup de monde. Elle devrait me réjouir, moi aussi, moi qui ne lui ai jamais pardonné d'avoir tué Eogan, et qui vais peut-être trouver l'occasion de sortir grandi de cette épreuve. Et pourtant je suis triste. Il y avait quelque chose de touchant chez la reine. Elle était si jeune, si seule. Et sa mort n'est qu'un malheur de plus.
Mais à vrai dire, reprit le grand druide, ce n'est pas le principal souci du moment, n'est-ce pas? Il nous faut surtout trouver un nouveau roi.
Oui, il faut trouver un roi. Comme il faudra un nouveau comte pour la Sarre et un baron pour la Bisagne. À moins que la fille Bisagny reste baronne. Tout change si vite.
Eogan et Amine n'ont laissé aucune famille, pas même de neveux ou de nièces, expliqua Belli. Nous cherchons encore s'il n'existerait pas un cousin quelque part, mais je pense qu'il se serait déjà manifesté.
Pourquoi ne pas nommer un druide ? Osa Aenon, les yeux fixés droit devant lui.
Quelle toupet, je n'arrive pas à y croire. Décidément, ce Aenon m'est de plus en plus antipathique. D'abord, il a trahi les siens en quittant Saïmina, et maintenant, il serait prêt à marcher sur le cadavre de la reine pour accéder au trône. Je ne pensais pas qu'un druide puisse être aussi opportuniste. Cela manque tellement d'élégance.
Vous plaisantez ?
Pourquoi ? Se défendit le grand druide.
Nous avons bien accepté de nommer votre reine archidruide. Le royaume et le conseil ne sont-ils pas unis désormais ? Amine était reine et archidruide. Après sa mort, il serait tout à fait légitime que le nouvel archidruide prenne sa place.
Cela vous arrangerait bien, s'exclama Belli qui ne savait s'il devait rire ou s'inquiéter.
Le conseil a trop longtemps dû diriger les affaires de la Gaëlia à distance. Nous avons accepté de quitter Saïmina pour venir jusqu'ici, parce que nous estimions que notre devoir envers l'île nécessitait une implication plus grande encore. Je crois que nous sommes les mieux à même de gouverner la Gaëlia.
Le conseil a trop longtemps dirigé les affaires de la Gaëlia tout court. Il est temps que cela change. Ce n'est pas aux druides de gouverner.
Vous allez finir par me faire croire que c'est vous qui avez envoyé cet assassin.
Je vous en prie, s'offusqua Aenon. Il ne s'agit pas de guerre de pouvoir ou d'intérêt personnel, conseiller. Il s'agit de politique pure et de logique. Reconnaissez qu'il n'y a personne à la cour qui puisse prétendre à gouverner l'île, si ce n'est le conseil, qui l'a longtemps fait dans l'ombre et qui vient de se rapprocher de Providence.
Vous êtes, bien au contraire, le pire des prétendants au trône, mon pauvre ami.
Il faut que je le remette à sa place. Que je lui montre que le trône n'est pas à prendre. Que la structure royale tient toujours. En vous recevant à Providence, le royaume vous a redonné un pouvoir et une cohérence que vous aviez perdu. Ce n'est pas le conseil qui nous a rendu service, c'est Providence en l'accueillant qui s'est montrée généreuse envers vous. Je pense que vous devriez vous estimer heureux de pouvoir conserver ce statut.
Inutile d'en espérer davantage. Voilà qui devrait calmer ses ambitions.
Dois-je comprendre, conseiller, que vous souhaitez vous-même devenir roi ?
Ce n'est ni à moi ni à vous d'en décider. Une situation équivalente s'est déjà présentée il y a fort longtemps au royaume. Le roi est mort, sans laisser d'héritier. Et dans ce cas-là, la tradition veut que ce soit les généraux qui choisissent le nouveau souverain. Nous verrons donc ce qu'ils en penseront. Et il y a peu de chances qu'ils choisissent un druide. Mais nous en reparlerons. Tenez, voilà le cortège, reprit Belly en désignant le sinistre équipage qui faisait son entrée sur la place.
Une grande charrette apparut en effet sous l'arcade de pierre qui ouvrait la place principale sur le nord. Assis à l'avant, le bourreau, vêtu de noir, le visage caché sous une épaisse et longue capuche, tirait sur les brides de ses chevaux pour qu'ils n'aillent point trop vite. Toute la foule devait voir le visage du condamné. Il ne fallait donc pas que, apeuré par les cris du public, les chevaux partent au trot. Un homme marchait derrière la charrette, les deux mains liées, attaché au convoi par une corde qui passait à son cou. Almar Cain, le boucher. L'homme qui avait tué la reine. Il avait les yeux dans le vide, marchait calmement comme s'il n'entendait pas les hurlements haineux de la foule. Pieds nus, blessé. Il avait sans doute été torturé toute la nuit. Il semblait pourtant ne rien sentir, comme si la mort, pour lui, avait déjà fait son travail. Derrière lui, l'exécuteur emmenait quatre assistants, le visage couvert, eux aussi. Noir comme la mort, il n'attirait pourtant pas le regard des citoyens assemblés là. Non, il n'avait Dieu que pour l'homme qui allait mourir. Pour cet assassin sans scrupules qui avait décapité le royaume de Galatie. Belly serra les mains sur les accoudoirs de sa chaise. Cela faisait des années qu'il n'y avait pas eu d'exécution à Providence. Le roi préférait que les coupables fussent condamnés au bannissement, sans doute parce que lui non plus ne supportait pas le spectacle de ces mises à mort. Mais cette fois-ci, Belly n'avait pu résister à la demande de la cour. Tous voulaient un symbole fort. Généraux, nobles, conseillers, baillis, tous avaient demandé une exécution publique. Et il semblait, à voir les visages dans la foule et les cris de vengeance qui s'élevaient sur la place, que la population était du même avis. Arrivée au milieu de la place centrale, la charrette du bourreau s'arrêta. L'exécuteur descendit lentement, puis alla détacher Almar pour le traîner jusqu'au poteau qui consistait en deux grands troncs croisés, fixés à l'horizontale. Avec l'aide de ses assistants, il coucha le condamné sur le poteau et le lia. Il fallait faire passer la corde de manière à ce que l'écartèlement soit possible, ce qui demandait une certaine maîtrise. Almar ne se débattait même pas. Il s'était couché, docile, sur les deux troncs de bois, avait tendu les bras pour qu'on puisse l'attacher, et la bouche grande ouverte, fixait du regard les nuages dans le ciel, attendant paisiblement une mort qu'il paraissait ne pas craindre. Qu'il semblait connaître depuis longtemps, comme une vieille compagne. Ou peut-être n'avait-il pas compris qu'il allait mourir. La tension dans la foule grandissait. Hommes et femmes criaient, crachaient, lançaient des cailloux vers le condamné. La garde royale peinait à contenir le public qui poussait toujours plus vers le centre, comme s'il avait voulu écraser l'assassin, l'engloutir. Le bourreau et ses assistants avaient attaché les quatre chevaux aux membres du condamné. Bras et jambes tendus, Almar s'offrait à son exécution. Belly frissonna. En hauteur, éloigné de la cohue, il n'arrivait pas à comprendre la liesse de la foule, l'appel du sang, l'envie de voir mourir.
Comment peuvent-ils regarder ça, demander ça? Voilà ce que sont les foules. Un jour choqué par la barbarie. Le lendemain, barbare elle-même. Combien de femmes ici? Combien de mères? Et combien de coupables qui pourraient être à sa place?
Les cris étaient de plus en plus forts. Les vagues de mouvements de plus en plus violentes. Les poings se levaient, crispés par la haine. Soudain, le bourreau attrapa dans la charrette de grandes tenailles en fer forgé qu'il leva haut, au-dessus de lui, pour les montrer à la foule. Les Galatiens l'acclamèrent.
« À mort ! À mort !»
criait-il en applaudissant l'exécuteur.
Celui-ci s'approcha d'Almar. Il vint se placer sur son flanc droit. Puis, avec les tenailles, il arracha la chair de sa cuisse et celle de son bras. Les membres sursautèrent, le sang gicla. Mais Almar ne cria pas une seule fois. Il ne cligna même pas des yeux. Le bourreau resta immobile à côté de lui. Sans doute n'avait-il jamais vu ça. Cette répugnante opération pour préparer l'écartèlement était en général le moment où le condamné hurlait le plus. Parce que la douleur était insupportable, mais aussi parce qu'il en avait encore la force. Mais Almar, lui, semblait ne rien sentir. Le bourreau secoua la tête et passa de l'autre côté de sa victime. Il répéta son geste. La cuisse, le bras, un coup de tenaille. Les quatre membres étaient à présent décharnés. L'écartèlement pouvait commencer. Le bourreau fit un pas en arrière. La foule était en délire. On ne pouvait dire à présent si tous les cris étaient toujours des cris de haine ou s'ils s'y mêlaient des hurlements épouvantés devant les giclées de sang qui continuaient de jaillir des chairs déchirées. Quand l'exécuteur leva enfin la main, ses assistants, montés sur les quatre chevaux, se mirent à avancer. Les quatre cordes se tendirent, tirant sur les membres du condamné, et les muscles commencèrent à se déchiqueter. Les yeux d'Almar étaient toujours grands ouverts, et il semblait même à présent qu'il souriait. Les chevaux se mirent à peiner. Les muscles tenaient bon. La chair se découpait par endroits, mais à d'autres, les nerfs résistaient. Soudain, un bras céda. Le membre s'écroula sur le sol et fut traîné sur quelques distances derrière le cheval libéré. Et cette fois-ci, ce fut bien des cris de terreur que poussa la foule. Le bourreau, voyant que les trois autres chevaux ne parvenaient plus à avancer, se saisit rapidement d'une grosse hache à l'arrière de la charrette, revint auprès du corps mutilé de Caïn, et à grands coups, il se mit à entailler les muscles et les nerfs des trois membres, les uns après les autres. Alors, enfin, les chevaux parvinrent à achever l'écartèlement. Les muscles se déchirèrent et les os craquèrent en un instant. Le tronc ensanglanté d'Almar Caïn, que plus rien ne retenait, roula sur le côté et tomba lourdement à terre. Il avait encore les yeux ouverts. Corps humain méconnaissable, atrophié, couvert de sang et de chair déchiquetée, et pourtant ses yeux, ses deux yeux si pleins de vie. Et soudain, comme si elle réalisait enfin l'horreur du spectacle auquel elle venait d'assister, la foule tout entière se calma. Les cris s'étouffèrent, les poings levés se baissèrent. Quelques-uns même se mirent à pleurer, surchargés d'émotions confuses.
« Plus jamais je ne veux assister à cela !»
murmura Belly dans les tribunes, sans vraiment savoir s'il parlait tout haut ou dans sa tête.
« Plus jamais !»
Enon posa une main sur son épaule.
C'est pourtant le genre de spectacle auquel doit s'habituer un futur roi.
Belly secoua la tête. Il n'avait pas envie d'en parler. Pas envie de débattre encore avec le vieux druide.
Allons, ce n'est qu'une mort, Belly, reprit Enon en soupirant. Certes, pas très élégante, mais ce n'est qu'une mort. Demain, quand l'Harcour sera aux portes de Providence, nous allons en compter des milliers.
Vous croyez que l'Harcour va attaquer ?
Demanda Belly en baissant les yeux pour échapper au spectacle de la grande place.
Vous en doutez ? Réfléchissez. Ils vont profiter de notre instabilité, évidemment. C'est pour cette raison que vous devez nommer un roi au plus vite.
Enon se leva d'un air satisfait, passa derrière Belly, tapa sur son épaule et quitta la tribune. Alors que tous ses compagnons participaient aux travaux de reconstruction et à la nouvelle organisation de la ville, Aléa descendit au beau milieu de l'après-midi dans les cachots du château. Un petit escalier en colimaçon s'enfonçait sous la tour ouest des remparts, si profondément que les parois de pierre étaient humides et glacées. Aléa descendit les marches une à une, faisant attention à ne pas glisser, une torche dans la main gauche. L'odeur et l'obscurité lourde lui rappelaient son séjour dans les prisons de Ria, où le comte d'Harcourt l'avait enfermé. Ce sentiment désagréable d'être abandonné sous terre. Et même si l'ironie n'était pas complètement pour lui déplaire, L'idée de faire subir la même chose à ce général Harcourtois lui semblait de plus en plus déplacée. En tout cas, indigne de la nouvelle image qu'elle voulait donner à la Gaëlia. Elle se dit à cet instant qu'elle allait demander à Erwan de faire installer une prison à l'extérieur, en surface, à un endroit où puissent entrer au moins quelques rayons de soleil. Elle arriva bientôt dans le long couloir des cachots, où deux soldats discutaient autour d'une table. Quand ils virent arriver la jeune fille, ils se levèrent et se mirent au garde-à-vous, ce qui amusa Aléa. « Restez assis, je vous en prie. Où se trouve Dancret ?»«
Je suis là !»
railla le général de l'autre côté du couloir en sortant la main par la grille qui fermait sa cellule. Aléa prit un tabouret sous la table des deux gardes et s'avança vers l'allée. Il n'y avait personne d'autre ici, Erwan ayant exigé que le général soit placé dans une cellule isolée. Les autres prisonniers étaient dans les cachots de l'aile ouest du château. « Bonjour, général, » dit-elle en posant le tabouret devant la grille.
« Vous trouvez ?»« Je ne sais pas s'il est vraiment bon ce jour. »
Dancret avait changé de figure. À peine deux journées passées dans cette cellule, et déjà il avait la peau blanche, les yeux rouges et cernés. Sa barbe mal rasée finissait de lui donner un air terrible. Il ne s'était pas changé depuis la nuit de l'attaque, portait toujours son pantalon de toile déchiré, sa chemise, qui n'était plus tout à fait blanche, et sa courte veste de cuir.
« Dancret, je ne viens pas ici pour jouer à un jeu. Vous êtes emprisonné. Beaucoup de gens là-haut aimeraient que je vous fasse pendre. »
« Avec plaisir !»
rétorqua le général, cynique.
Amine de Galassie et le baron de Bizagne ont tous deux été assassinés.
Cette fois-ci, le général ne sut que répondre. Le sourire s'effaça de son visage.
« En même temps ?»
demanda-t-il finalement pour essayer de comprendre.
« Pratiquement oui. Amine a été tué par un fou, dont je soupçonne, moi, qu'il était envoyé par Maol Morda. Et le meurtre du baron a été commandité par sa propre fille, qui a pris sa succession, évidemment. »
Le général toussa.
« Eh bien, voilà qui ne va pas vous simplifier la vie. »
« Pourquoi la mienne ?»«
Parce qu'Alroeg va vouloir en profiter pour attaquer la galaxie. Mais je ne vois pas pourquoi je vous dis cela. Vous le découvrirez bien toute seule. »«
Vous êtes fin stratège, Dancret, mais bien mauvais perdant. »«
Oh, vous savez, je suis moins bon stratège que je le croyais. Si j'avais amené 2000 hommes de plus, vous ne seriez jamais entré dans la ville. »«
Vraiment ?» Allons, Dancret, vous croyez vraiment que vos 2000 hommes auraient pu arrêter ce que les druides et moi-même vous avons fait subir? J'ai des doutes, général.
L'officier fit une grimace.
Vos druides ne sont pas invincibles. Nous les avons fait fuir à Sablon, je vous le rappelle.
Je n'étais pas là, répliqua Aléa.
Eh bien, vous êtes encore plus prétentieuse qu'on ne me l'avait dit.
Aléa sourit.
Je dois avouer que j'ai fini par le devenir. Mais étant donné le contexte, je pourrais l'être encore davantage, non?
Qu'espérez-vous de moi? Coupa le général.
À vrai dire, je suis venu pour deux raisons. D'abord, pour une raison tactique. J'aimerais connaître votre opinion sur ce qui risque de se passer à présent. Ensuite, pour une raison personnelle. Je veux apprendre à pardonner.
Le général écarquilla les yeux.
À pardonner? « Mais je n'ai rien à me faire pardonner !»
Aléa sourit de nouveau.
« Alors parlons plutôt de tactique, » proposa-t-elle.
« Vous voulez un conseil tactique? En voilà un. Pendez-moi et n'en parlons plus !»«
Vous pensez donc que l'Harcourt va attaquer la galaxie ?» insista Aléa.
Le général resta muet.
« Allons, Dancret. Si vous étiez à Ria, que diriez-vous au comte Alroeg? Lui conseilleriez-vous d'attaquer la galaxie ? »
Mais Dancret ne répondait toujours pas. Les bras croisés, il la dévisageait avec un regard plein de défis. « Bien, » reprit Aléa.
« Donc vous ne voulez pas parler de tactique. Alors revenons à l'autre sujet. »
« Quel autre sujet ? » ?»«
Je vous pardonne, Dancret. »
« Quoi ? » ?»«
Je vous pardonne pour toutes les morts dont vous êtes responsable. »
« Ça ne va pas, non ?»
s'emporta le général.
« Les Touatanes, massacrés sur la colline de Sablon, les Sarrois, les Tarnéens. Je vous pardonne pour les enfants qui ont dû fuir. Je vous pardonne pour le comte que vous avez fait pendre. Je vous pardonne, Dankray.
Bon, arrêtez, ça suffit.
Dankray se leva et s'approcha de la grille, les yeux exorbités, comme pour impressionner Aléa. Je vous pardonne pour tous les soldats arcourtois que vous avez laissés mourir en les menant à la guerre. Je vous pardonne pour leurs femmes et leurs enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans mari et sans père. Pour tout cela, Dankray, je vous pardonne.
Taisez-vous !
Hurla le général, hors de lui. Avez-vous compté combien de morts, Dankray ? Si je voulais compter ceux dont je suis responsable, moi, je ne crois pas que j'y parviendrai. Si je veux pouvoir me pardonner à moi-même, je dois d'abord vous pardonner, à vous.
Vous êtes complètement folle,
souffla le général en partant se rasseoir. Dites-moi, Dankray, maintenant que vous avez perdu Tarnéa, dites-moi à quoi ont servi les morts dans vos troupes. Le général baissa les yeux à terre. Il ne voulait plus entendre Aléa. Il ne voulait plus la voir. Répondez, Dankray. Ceux qui sont morts pour prendre cette capitale, maintenant qu'elle a été libérée de nouveau, pensez-vous qu'il était si utile qu'ils meurent ?
C'est la loi de la guerre, cracha le général.
Et la guerre est votre métier, oui, je sais. Aléa poussa un long soupir. Puis elle se leva, repartit vers la table des deux gardes où elle prit les clés des cellules, revint vers la grille qui enfermait le général, et l'ouvrit. Elle prit son tabouret, entra dans la cellule, referma la grille derrière elle et s'assit juste en face de Dankray. Avez-vous une passion dans votre vie, en dehors de la guerre ? Le général leva un sourcil d'un air perplexe.
Pardon ?
Une passion. Comme mon ami Mjoln, avec la cornemuse par exemple. Dankray ne put s'empêcher de sourire, mais d'un sourire sombre. Il secoua la tête, incrédule. La jeune fille était vraiment singulière, il devait l'admettre. « Allons, répondez. Je vous pose une question simple. Avez-vous une passion ?»«
Je ne sais pas, » bredouilla-t-il finalement. « J'aime bien les jeux de table. Le fichel, surtout. »
Aléa pouffa. « Non, ça ne compte pas. C'est exactement la même chose que la guerre, mais en miniature. » Vous avez sûrement une autre passion, Dankray.
Non, je ne vois pas.
La peinture, la danse, la musique, le voyage peut-être.
Non, répéta le général. Je suis tout entier à mon devoir.
Aléa acquiesça. Je vois. C'est dommage, n'est-ce pas? Car quand on n'aura plus besoin de vous, vous ne saurez plus que faire.
On aura toujours besoin de moi.
« Vraiment ? Aujourd'hui, par exemple, à qui êtes-vous utile ?»
Le général soupira. « Où voulez-vous en venir ? Vous voulez que je profite de mon temps ici pour me mettre à la peinture, c'est ça ?»
Aléa sourit. « Je n'y avais pas pensé, mais ce pourrait être une bonne idée. En attendant, vous avez tout de même l'occasion de vous rendre utile. »
Le général éclata de rire. « Il vous aura fallu tout ce détour pour essayer de me convaincre de vous répondre ?» « Allons, mademoiselle, vous parlez à un général, pas à un enfant. »
Aléa acquiesça. Elle comprit qu'il était inutile d'insister. Elle se leva, prit son tabouret et sortit de la cellule. « Au revoir, général, » dit-elle en refermant la grille. « Je retourne dehors, où l'histoire se jouera donc sans vous. » Elle le salua et fit demi-tour. Elle traversa le couloir, glissa le tabouret sous la table des gardes, et leur rendit les clés.
Attendez ! Cria le général à l'autre bout du couloir.
Aléa sourit. La voix de Dankray résonnait entre les vieux murs de pierre. Elle pouvait y lire les émotions mélangées de l'officier. Peur, hargne, désespoir.
Bien sûr qu'Alroeg va attaquer,
lança-t-il comme pour la retenir.
Il va attaquer le plus vite possible, avant que la galaxie n'ait le temps de s'organiser. Il est même sûrement déjà en marche.
Le général parlait vite, la voix pleine de détresse. Il n'était donc pas aussi dur qu'il voulait le faire croire.
Les deux mains accrochées à la grille, il criait, ignorant sans doute si Aléa l'entendait. Si elle était encore là.
« Tenez !» reprit Dancret, cynique. « Vous voulez des informations encore plus précises? Je suis prêt à parier que Rutter et Dale dirigeront chacun une troupe de la cavalerie et qu'Astley s'occupera de l'infanterie. Aléa, vous m'entendez ?»
La jeune fille resta immobile, silencieuse, un sourire aux lèvres. Elle décida d'attendre encore. Le général allait sûrement en dire davantage. Il avait la voix désespérée.
« Aléa, vous êtes là ? Cela ne vous suffit pas. Que voulez-vous que je vous dise ? Que Mérian de Mort, le comte de Terre Brune, sera forcément de la partie ? Eh bien oui, et malgré lui, ce pauvre imbécile. Alroeg l'a bien eu. Aléa, vous m'entendez, bon sang ?»
Aléa fit un clin d'œil aux deux gardes médusés et retourna dans le long couloir. Elle ne parla pas. Elle savait que Dancret écoutait le bruit de ses pas. Elle s'arrêta à mi-chemin et s'assit, le dos contre une grille, deux cellules plus haut que celle du général, où il ne pouvait toujours pas la voir. « Soit, » reprit-elle d'une voix calme. « L'Harcourt et la Terre Brune vont donc attaquer. Mais où ?»«
À Providence, bien sûr. Aléa, réfléchissez, où voulez-vous qu'ils attaquent ?»«
N'importe où ailleurs. » pour obliger la galaxie à diviser ses troupes. Le général poussa un grondement d'amertume. Aléa entendit un bruit de frottement. Dos au mur, il avait dû se laisser glisser lentement par terre, vaincu.
« Non, » répondit-il d'une voix lasse. « Ce que le comte doit chercher, c'est un seul grand combat, frontal et terminal. Car il sait que c'est sans doute sa dernière chance. » Il sait que la galaxie finira bien par se reconstruire. Il sait que vous, Aléa, êtes en train de gagner du pouvoir. Non, la guerre aura bien lieu à Providence. Et elle sera colossale.
Aléa se mordit les lèvres. Elle savait que le général ne se trompait probablement pas.
« Et la bisagne ? » demanda-t-elle.
« La bisagne ? Si la fille du baron a voulu prendre le pouvoir... « C'est sans doute qu'elle était exaspérée par l'inaction de son père, non ?»«
Ou tout simplement avait-elle soif de pouvoir ?»«
Non. Il faut une sacrée dose de haine pour être capable de tuer son propre père. »
Aléa avala sa salive. Cette pensée en amenait d'autres avec lesquelles elle ne voulait pas trop flirter. De bien mauvais souvenirs.
« Vous croyez qu'elle participera à cette guerre ?» demanda-t-elle plutôt.
« Je ne sais pas. Probablement. Si elle estime qu'elle a besoin de renforcer son poids politique et militaire auprès de la galaxie, l'Harcourt doit se poser la même question. Et ils doivent aussi se la poser à votre sujet. »
Aléa resta silencieuse.
« Vous irez ?»
demanda le général. Aucune réponse.
« Allons, Aléa, je vous ai tout dit. Répondez-moi, vous irez à Providence ?»
La jeune fille se leva et rejoignit enfin la cellule du général. Elle le regarda droit dans les yeux.
« Si j'y vais, Dancret, ai-je la moindre chance d'empêcher cette guerre ?»
Le général hésita. Il regardait la jeune fille de ses yeux abattus. Ce n'était plus le même homme. Il avait compris quelque chose. Compris qu'il ne servait à rien de lutter. Et aussi que peut-être il s'était trompé. Et s'il s'était trompé, une seule chose pourrait encore racheter ses fautes. Car après tout, il devait reconnaître une chose. Cette jeune fille était le personnage le plus étonnant qu'il ait jamais rencontré. Le plus troublant. Le plus sincère. Au point où il en était, pourquoi ne pas lui donner une chance? Oui, quitte à tout perdre, pourquoi ne pas lui faire confiance?
« Non, Aléa, vous ne pourrez jamais empêcher cette guerre. Il est déjà trop tard. Aucun des deux camps ne vous est acquis. Aucun ne vous écoutera. Cette guerre aura lieu, Aléa. »
« Alors à quoi bon ?» s'exclama Aléa. « Pourquoi irais-je risquer la vie de mes hommes si cela ne sert pas à en sauver d'autres ?»
Elle ferma les yeux. Et en même temps, reprit-elle, c'est là que tout va se jouer, n'est-ce pas? Le général acquiesça. Que feriez-vous à ma place? Demanda Aléa. Dankray écarquilla les yeux.
Vous demandez à l'homme que vous venez de battre ce qu'il ferait à votre place,
s'hébéta-t-il en levant les bras vers le plafond.
Décidément, vous ne m'aurez rien épargné.
Ce n'est pas mon genre, et je fais confiance à votre jugement. Vous savez, général, mon plan a bien failli ne pas marcher contre vous.
Votre plan?
L'inondation. Le général acquiesça en souriant. Alors, reprit Aléa, que feriez-vous à ma place? Et Dankray lui répondit, avec sincérité. Alors, Aléa sut qu'elle avait eu raison de lui pardonner. Le comte Merian de Mor parvint à réunir 8000 hommes pour rallier Atarmadja, où il savait que Feren Alroeg l'attendrait dans quelques jours déjà. L'humeur des troupes était grave. On partait pour une nouvelle guerre, et celle-ci, sans doute, serait la plus grande de toutes. Peut-être la dernière. Il l'espérait en tout cas, car trop de Brunois étaient morts. Trop de maris manquaient dans les campagnes isolées de Terre Brune. Il faudrait bien qu'un jour les guerres s'arrêtent, qu'on prenne le temps de reconstruire. Rien ne servait de se battre pour des ruines. Mériande, toutefois, n'était pas mécontent de rejoindre Atarmadja. Non qu'il vît cette guerre d'un œil meilleur que ses soldats, mais simplement parce qu'il espérait pouvoir se débarrasser ainsi de l'évêque à Aeditus. Au fil des journées passées aux côtés du religieux, Mériande avait appris à le maudire toujours un peu plus. Surtout, il se demandait de quelle légitimité pouvait se prétendre l'évêque. Il n'avait pas, lui, mené des hommes au combat. Il n'avait pas perdu les siens, vu mourir sa famille devant ses yeux pour sauver une terre. Il n'avait même pas de terre, d'ailleurs, pas d'attachement. Seulement la « confiance divine », comme il disait. Mais cela suffisait-il pour s'estimer ainsi l'égal des rois? Cela suffisait-il pour commander aux hommes? Cela suffisait-il pour imposer morale et ligne de vie? Mor avait accepté de se convertir au christianisme parce que la victoire que lui avait apportée l'Harcourt lui avait paru miraculeuse. Il avait accepté d'être baptisé parce que ce dieu semblait plus clément que la Moïra. Mais il commençait aujourd'hui à se demander s'il n'avait pas fait une erreur. Si on ne l'avait pas trompé. Petit à petit, le dieu d'amour qu'on lui avait présenté s'était transformé en dieu de la différence, en dieu du mépris et de l'obligation. Au lieu d'aider les Brunois à s'épanouir, la religion les enfermait de nouveau. Elle dessinait déjà des milliers de barrières. Obligeait à penser ainsi, à ne pas croire à ceci, à croire à cela. Plutôt que de réunir les hommes, elle les divisait. Et cet évêque était sans doute plus envahissant encore que ne l'avaient été les druides avant lui. Alors, sans oser vraiment exprimer son impatience, Mériande se réjouissait à l'idée de rejoindre Atarmadja pour rendre à Alroeg ce pesant pontife. Et surtout, malgré sa bonne volonté, Mériande n'avait pas trouvé Dieu. Ce Dieu dont la vive lumière l'avait ébloui pendant la bataille de Sablon. Le soir, quand il était seul et qu'il cherchait au tréfonds de son âme, le comte ne le retrouvait pas. L'amour promis, disparu. La justice, inabordable. Et demain, l'éternité? Que valait l'éternité si l'on ne pouvait rendre ces quelques heures joyeuses? Pourquoi rêver au paradis si l'on ne pouvait construire le bonheur ici-bas? Non, décidément, plus il accompagnait l'évêque, plus il regrettait d'avoir embrassé cette religion. Il se demandait à présent ce qui pourrait advenir. Comment il pourrait gérer pareille situation? Pouvait-il continuer de se mentir à lui-même et à son peuple? Pouvait-il avouer au comte d'Harcourt qu'il rejetait finalement son Dieu? Comment l'expliquer à tous ceux qui s'étaient convertis en suivant son exemple? Il était aujourd'hui dans une impasse. Il ne trouvait aucune issue à la situation dans laquelle tous ces événements l'avaient amené. Mais il y avait la guerre avant tout. Les réponses peut-être viendraient plus tard.
si elle devait venir. « À quoi pensez-vous, monsieur le comte ?» demanda l'évêque à Editus, qui venait justement d'amener son cheval à côté du sien. Mériande fit une grimace. Il ne pouvait répondre en toute sincérité. Il était encore trop tôt.
« À cette guerre, monseigneur !» l'évêque acquiesça.
« Les jours qui précèdent la bataille sont toujours les plus durs. Plus durs que la bataille elle-même, paraît-il. »
« Vous êtes-vous déjà battu, monseigneur ?»«
Non, avoua Editus. Mais je n'ai pas besoin de cela pour partager les émotions des autres, pour éprouver ce que ressentent vos hommes en ce moment même. Je vais essayer de leur parler ce soir. Ils doivent trouver réconfort dans la parole divine.
Ce à quoi pensent mes hommes en ce moment, c'est à la même chose que moi, monseigneur. Ils pensent à leurs femmes et à leurs enfants.
Vous avez déjà eu une femme, monseigneur ? Vous savez bien que non. Les gens d'église ne se marient pas.
Alors vous ne pouvez pas comprendre.
Vous croyez vraiment, s'emporta l'évêque. Vous croyez qu'il faut avoir eu une femme pour savoir ce qu'est l'amour ? Vous croyez que je n'ai jamais aimé ? Qu'il n'y a aucune femme que j'ai un jour désirée ?
Vous pouvez avoir eu 1000 amantes, monseigneur. Vous ignorez ce que c'est de dire au revoir à vos enfants et à celle qui les a mis au monde avec vous.
J'ai eu une famille, vous savez. Des parents, des sœurs, des frères.
Mériande sourit. Il savait qu'il était inutile de continuer. Il risquait d'ailleurs de manquer de respect à l'évêque. Il décida qu'il valait mieux changer de sujet au plus vite.
« Atarmadja est encore loin, » dit-il. « Je vais dire au capitaine de faire accélérer les troupes. »
Il salua l'évêque et partit au galop vers l'avant du convoi. Il était bien trop tard pour faire demi-tour.
« Aucun militaire ne nous accompagnera, » annonça Aléa au milieu du dîner.
« Comment ?»
s'étonna Erwan qui, comme les autres, ignorait encore tout du plan qu'avait imaginé la jeune fille. Tous ici savaient qu'Aléa avait passé plusieurs heures à discuter avec le général d'Ancret et qu'après cette longue conversation, elle semblait avoir pris une importante décision quant à la suite des événements, mais nul ne savait laquelle exactement. Elle avait réuni tous ses compagnons, Erwan, Caitlin, Bjoln, Fario, Tagor, Fingin et les 5 autres grands druides de Saïmina. Maintenant que la joie de la libération de Tarnéa était retombée, l'angoisse de la guerre qu'on annonçait au sud avait pris le dessus.
« L'armée de la terre restera ici, à Tarnéa, avec vous, mon cher Fario, et avec toi, Tagor. »«
Je ne pars pas avec toi, » rétorqua le Tuatan, sourcils froncés.
« Non, mon frère. Tu me manqueras, mais les Tuatan ont besoin de toi. Les gens de Sar ne les connaissent pas, et Fario ne saurait les comprendre assez vite. » Tu dois rester pour assister le capitaine et pour aider ton peuple à s'installer ici paisiblement. »
Le jeune homme acquiesça en silence. Il savait que sa sœur disait vrai. Il détestait l'idée de ne pouvoir la suivre, mais malheureusement, elle avait raison. Encore une fois.
« Fario, si tout le monde ici est d'accord, je voudrais vous nommer provisoirement gouverneur de Sar. »
« Gouverneur ?»
répéta le capitaine, surpris.
« Je ne suis qu'un simple petit officier de Saratea, Aléa, tu n'y penses pas ?»«
Tant que nous n'aurons pas clarifié tout ça, le comté a besoin d'un dirigeant. Je crois que vous êtes le mieux à même de faire cela, en attendant que tout soit résolu sur l'île. Vous êtes juste, vous vous êtes montré bon stratège, vous aimez ce pays et les gens vous apprécient en retour. Vous êtes l'homme qu'il faut au comté pour le moment. Est-ce que quelqu'un ici y voit une objection ?»
« Ça non, c'est bien une excellente idée !»
répliqua Mjoln. Aléa le remercia. Elle n'avait pas encore pris l'habitude de le voir dans son costume bleu de barde, mais cela lui allait à ravir, et il avait l'air tellement heureux.
« Archidruide ?» demanda Aléa en se tournant vers Hernan, à l'autre bout de la table.
« Nous faisons confiance à votre jugement, Aléa. »«
Merci. Fario, acceptez-vous cette tâche ?»
Le capitaine finit par hocher la tête.
« Je ne sais pas si je suis aussi juste que tu le dis,
Mais tu as au moins raison sur une chose. J'aime ce pays. Et j'espère que je saurai être aussi droit et raisonné que tu l'es devenu.
Les convives le félicitèrent. En peu de temps, il avait en effet su plaire aux compagnons d'Aléa. Non pas pour son humeur, il était plutôt grave la plupart du temps, mais pour son honnêteté, sa droiture et son dévouement. C'était de toute évidence un homme bon, et personne ne trouvait déplacé qu'il fût nommé gouverneur de ce comté, qui ne pouvait plus rester orphelin. « Bien. Vous aurez donc la charge de garantir la paix de Lassar, de reconstruire ce qui a été détruit à Tarnéa, et de remonter une armée qui, à l'avenir, n'aura plus à craindre les invasions. Tagor, je compte sur toi pour l'assister dans cette tâche. Quant à toi, Tan, puisse-t-il trouver en Sar un asile et une paix méritée. Que ton peuple trouve enfin une terre où s'épanouir, mon frère.
Nous serons très bien ici, affirma Tagor en souriant. Je dois même t'avouer, petite sœur, que plusieurs familles se sont déjà installées dans les campagnes environnantes.
Fort bien. Maintenant, parlons de la Gaëlia. Tous les convives tournèrent de nouveau les yeux vers Aléa. On arrivait au cœur du sujet. Car la paix au comté de Sar n'était plus menacée pour le moment. Mais l'avenir de l'île, lui, était de plus en plus incertain.
« Je pense que cela ne fait plus de doute, » reprit Aléa. « L'Arcour et la Galassie vont s'affronter dans les prochains jours. Le général Dancret, que je suis allé questionner, comme vous le savez, pense que Feren Alroeg va envoyer son armée et celle de Terre Brune à Providence, et ce, de manière imminente. Je partage sa prévision, et je pense que vous tous ici êtes du même avis. »
La plupart acquiescèrent.
« Oui, » ajouta Kiaran avec son air mystérieux. L'histoire se répète.
« Que voulez-vous dire, mon oncle ?»
s'étonna Kathleen, qui elle-même avait du mal à saisir le sens énigmatique des interventions de Kiaran.
« Cette guerre a déjà eu lieu, » expliqua le grand druide. « Il y a plus de 10 ans, certes, mais ce n'est pas si loin. » La guerre d'Arcour.
À la différence qu'à l'époque, corrigea Hernan, c'était la Galassie qui attaquait l'Arcour, alors que cette fois, cela risque d'être le contraire.
Mais ce sont bien les mêmes ennemis. L'histoire se répète. Cette fois, en revanche, c'est toi, Aléa, qui entraîne l'histoire. C'est toi qui provoque tout ça.
Aléa n'a pas provoqué cette guerre, s'offusqua Erwan.
« Mais si, bien sûr, » se défendit Kiaran. Et elle ne doit pas se le reprocher, au contraire. C'est son seul rôle. Elle est celle qui va faire basculer l'histoire de l'île, Magistelle. Ne voyez-vous pas ce qui est en train de se passer ?
La guerre ?
Pas seulement. La guerre n'est qu'une conséquence de tout cela.
Mais alors quoi ?
Insista le Magistel.
La Gaëlia change d'âge, affirma Kiaran d'une voix calme et posée.
Tous semblèrent perplexes, à part Aléa, comme si elle savait déjà ce que le grand druide allait dire. Et c'était bien le cas, car Kiaran et Aléa avaient compris les mêmes choses.
La Gaëlia change d'âge,
répéta Mjoln en grimaçant.
Oui, je crois même pouvoir dire que la Gaëlia va passer à l'âge adulte, ajouta le grand druide en souriant. Ceux qui ont fait l'âge d'aujourd'hui vont disparaître, ou ont déjà disparu. Nous, les druides, et cela a déjà commencé, nous ne sommes plus que l'ombre de ce que nous étions jadis. Les dirigeants, Eogan, Amin, Ruad, Bizagne, bientôt sans doute... Alroeg et Mériand de Mort. La Gaëlia se débarrasse de ses pères. Car la Bizanie a tué le sien. Aléa va tuer la Moira. Tout cela va disparaître. N'est-ce pas, Aléa?
La jeune fille se mordit les lèvres. La vision de Kiaran était si proche de la réalité. Si proche de ce qu'annonçait l'encyclopédie d'Anali. Jamais elle n'aurait osé la formuler elle-même ainsi devant ses compagnons, et pourtant c'était bien ce qui était en train de se passer. En partie, en tout cas. Lentement, elle acquiesça.
Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia ? S'exclama Erwan qui n'arrivait pas à se contenir.
Le magistèle sortait rarement de ses gonds. Mais la pression peut-être, et la peur qu'Aléa ne soit plongée dans une guerre plus grave encore que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là, semblait lui faire perdre quelque peu le contrôle.
Nous devons aller à Providence, dit Aléa doucement, alors que tous la dévisageaient, encore sous le choc des propos de Kieran.
Aléa, reprit Erwan désemparé. Tu veux que nous allions seuls, les druides et nous, à Providence, alors qu'une guerre de plusieurs dizaines de milliers d'hommes est en train de se préparer?
Erwan, nous ne pourrons arrêter cette guerre. J'aimerais empêcher que tous ces soldats meurent, mais cette fois-ci, il est trop tard.
Cela fait partie de cette histoire de nouvel âge, s'emporta Erwan, que l'idée de rester impuissant devant une telle guerre rendait furieux. On doit laisser mourir nos frères pour changer d'âge.
Il ne s'agit pas de laisser mourir, mais d'accepter de renaître, répondit Kieran.
Formule de druide, s'écria Erwan furibond.
Erwan, intervint Aléa en fronçant les sourcils. Nous ne pouvons pas empêcher cette guerre. Si nous y allions avec ton armée...
Ton armée,
corrigea le magistèle.
Avec mon armée, nous ne ferions qu'augmenter le nombre de morts.
Je crois malheureusement qu'Aléa a raison, intervint Fario. Nous ne sommes qu'une troisième force dans cette confrontation. Tout ce que nous pourrions faire, c'est infléchir le combat d'un côté ou de l'autre, mais pas l'empêcher.
En revanche, nous pourrons en modifier l'issue, ajouta Aléa en prenant la main du magistèle.
Comment cela ? Demanda-t-il en reprenant son calme. Comment pourrons-nous influer sur quoi que ce soit une fois que la guerre sera finie ?
Nous avons déjà commencé, Erwan. Nous n'aurons qu'à récolter les fruits du travail que nous accomplissons depuis notre départ. Faites-moi confiance, une dernière fois. Suivez-moi à Providence. J'aurai besoin de vous.
Et pas d'une petite poignée de soldats ?
Insista Erwan. Mais cette fois-ci, Aléa vit qu'il plaisantait. Sa mauvaise humeur était repartie aussi vite qu'elle était arrivée. Erwan était un magistèle, un homme de raison, et il s'était rapidement rendu compte qu'il s'emportait trop, comme son père le lui avait souvent reproché. Garder son calme était un travail de tous les instants.
« Non, » répliqua Aléa en souriant. « Juste nous, les compagnons. Nous allons repartir sur les routes. »«
Comme au bon vieux temps !»
répliqua Mjoln, ironique.
Ahem. Combien sommes-nous ? Hernan, Kieran, Lorcan, Fingin, Shean, Odran, Kaitlin, Erwan, toi et moi ? 10 ! Cela fait 10 !
Vous ne voulez pas que les druides et nos magistèles nous accompagnent ?
Demanda l'archidruide.
Nous n'aimons pas beaucoup nous séparer de nos magistèles.
Non, répéta Aléa. 10, c'est un bon chiffre.
Le Samil Danak et ses 9 compagnons !
S'exclama Mjoln.
Voilà qui fera une belle chanson.
Quand veux-tu que l'on parte ?
Demanda Erwan qui redoutait la réponse d'Aléa.
La jeune fille sourit.
Demain. La nature s'embellissait chaque jour des couleurs de l'automne. Orange, rouge, jaune, violet, pourpre. Les feuilles et les herbes se teintaient comme sous le pinceau d'un peintre bizanier à mesure que les jours se faisaient de plus en plus courts. Les arbres se préparaient à passer l'hiver en se débarrassant de leurs robes bariolées et déposaient à leurs pieds un tapis chatoyant. Il faisait de plus en plus froid, et le pelage des loups s'épaississait. Ils auraient bientôt leur beau manteau d'hiver. Excités par le retour du froid, ils commençaient à revivre, et les jeux d'intimidation se multipliaient, comme ils ne cesseraient de le faire jusqu'à la saison des amours. La meute d'Imala, qui chassait depuis plusieurs jours, venait de débusquer un gros gibier et était en train de se reposer au bord du Sinaïne quand les cris se mirent à résonner en haut de la colline. Taïbron fut le premier à les entendre. D'un bond, le grand loup gris se dressa sur ses pattes, bientôt rejoint par Imala, puis par le reste du clan. Au loin, ils aperçurent aussitôt les silhouettes menaçantes qui entraient sur leur territoire, dans la vallée de l'Oma. Des silhouettes droites, fières, terribles.
les verticaux. Les loups n'attendirent pas un seul instant. Ils ne craignaient rien autant que les verticaux. Taillebrun partit en courant vers l'est, le long du fleuve, et le reste de la meute suivit, comprenant rapidement le danger, le ventre noué par la peur. Les uns derrière les autres, les loups longèrent le Sinaïn jusqu'à ce qu'ils fassent un grand lacet vers le sud. Alors ils quittèrent les rives du fleuve et continuèrent tout droit, car devant eux se profilait une forêt de pins où peut-être ils pourraient trouver un abri. Les cris des verticaux continuaient derrière eux. Des cris répétitifs, mêlés au bruit des grands bâtons de bois qu'ils frappaient contre terre. Ne cessant de courir, la meute finit tout de même par les distancer. Mais Taillebrun ne ralentit le rythme que quand ils furent arrivés à l'orée du bois. Essoufflés, la langue pendante, ils se faufilèrent alors à travers les pins, espérant avoir semé les verticaux. Ils s'enfoncèrent au cœur de la forêt, cherchant un point d'eau où ils pourraient se désaltérer. Mais alors qu'ils s'étaient remis à marcher, ils entendirent de nouveau des cris de verticaux, au sud cette fois, et beaucoup plus près d'eux. Les voix agressives résonnaient sous la voûte du grand bois. D'un seul élan, les sept loups partirent au galop dans le sens opposé, mais la forêt était trop dense, et cette fois-ci, ils ne purent rester groupés derrière Taillebrun. Les loups se dispersèrent parmi les pins.